Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la tentative d'assassinat de Salman Rushdie le 12 août dernier. À l'ordre du jour ce soir, Rushdie, comment s'entretient le feu de la haine ? Adi Matar, qui a tenté d'assassiner l'auteur des versets sataniques, est un Américain chiite d'origine libanaise de 24 ans, né 9 ans après la fatwa prononcée par l'ayatollah Khomeini contre l'écrivain britannique. Depuis ce jour du 14 février 1989, jour de la fatwa qui a vu le chef de la révolution iranienne condamné à mort, Salman Rushdie, cette fatwa ne s'est jamais éteinte et le guide actuel de la révolution en Iran a constamment rappelé que la fatwa était comme une balle et qu'elle trouverait immanquablement sa cible. Pourtant, depuis 33 ans, le mur de Berlin est tombé, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak et le Mali ont connu la guerre, les forces de l'OTAN ont quitté l'Afghanistan. Cet attentat nous a donc brutalement rappelé que la haine contre Salman Rushdie s'est entretenue dans le temps. Quels sont les moteurs d'une telle vengeance de longue durée? Comment vivent les personnes ainsi menacées? Nous allons discuter avec nos trois invités. Myriam Benrad, bonsoir. Vous êtes politologue, docteur de l'Institut d'études politiques de Paris, spécialiste du Moyen-Orient. Vous enseignez les relations internationales à l'Université internationale Schiller à Paris. Vous êtes autrice de « Terrorisme, les affres de la vengeance aux sources liminaires de la violence ». C'est chez Le Cavalier Bleu, c'est paru l'année dernière, ainsi que de « Ruminer sa vengeance dans le plus grand des secrets », une réflexion sur la violence djihadite en France. C'était chez Sigilla l'année dernière également. Olivier Havel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe et spécialiste de la fonction imaginaire de la parole et vous êtes auteur du livre « De l'humiliation » qui est paru l'année dernière, en février dernier, aux éditions des Liens qui libèrent. David Benichou, enfin, vous êtes notre troisième invité. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien juge antiterroriste, vous êtes détaché comme expert international au Maroc pour une mission de l'Union européenne sur le terrorisme au Moyen-Orient, Sahel et Corne de l'Afrique. Et vous avez écrit en 2015 chez Plon le livre « Le djihadisme, le comprendre pour mieux le combattre ».
L'appel au meurtre de Khomeini. Le leader iranien demande à tous les islamiques d'exécuter un écrivain anglais, Salman Rushdie. Bonsoir. C'est un véritable appel au meurtre que l'imam Khomeini a lancé. Le leader de l'Iran a demandé aux musulmans, où qu'ils soient, dans le monde entier, d'exécuter un écrivain et ses éditeurs. Sa faute, il a écrit un livre qui s'appelle « Les versets sataniques » qui ne plaît pas à l'ayatollah.
L'Iran n'en finit pas de souffler le chaud et le froid. Aujourd'hui, le chef du pouvoir judiciaire iranien a déclaré que la fatwa condamnant à mort Salman Rushdie finira par être appliquée un jour.
Bonjour à tous. L'auteur des versets sataniques visé par une fatwa iranienne, Salman Rushdie, a été attaqué hier dans l'état de New York. Poignardé au cou et à l'abdomen, il est placé sous respirateur.
Trois dates sur l'affaire Rushdie, 14 février 1989, 21 avril 1996 et le 13 août dernier, 13 août 2022. Cette question de la vengeance, vous la traitez, Myriam Benrad, dans votre livre « Terrorisme, les affres de la vengeance » aux sources liminaires de la violence, au Cavalier Bleu. Et vous estimez effectivement qu'on a trop fréquemment laissé de côté cette question de la vengeance dans les sciences sociales pour comprendre des phénomènes comme ceux du terrorisme.
Oui, alors dans les sciences sociales, sans doute pas, parce qu'il y a une littérature en fait très abondante hein, sur cette question, dans des disciplines aussi vastes que la philosophie, la sociologie, et puis également bien sûr l'anthropologie, l'ethnologie et d'autres. Mais il est vrai que dans l'approche qu'on a depuis, je dirais, enfin sur la question du terrorisme, depuis le 11 septembre 2001, l'approche qu'on a développée fait en effet, à mon avis, l'impasse sur cette problématique vengeresse qui reste au cœur d'un certain nombre d'attentats. Et on l'a vu avec l'affaire Rushdie qui est particulièrement emblématique puisque la fatwa elle a déjà plusieurs décennies d'âge. Et par ailleurs, l'assaillant, on l'a vu, est très jeune. On a des informations au compte-gouttes pour l'heure, mais il n'a par ailleurs pas forcément lu l'ouvrage, enfin selon les informations que j'ai pu avoir pour ma part. Et donc ça pose la question, en effet, de la fatwa, de ce qu'elle contient, et puis de la résonance qu'elle a eue dans l'appel vengeur qui avait été émis à l'époque en 89 contre l'auteur.
Et de la transmission, justement, génération après génération, d'une telle haine ou d'une telle volonté de se venger. De se venger de quoi d'ailleurs? Est-ce que c'est de se venger du livre? Est-ce que c'est de se venger des idées qu'il contient? Est-ce que c'est de se venger de la personne même de Salman Rushdie? C'est assez complexe à démêler tout de même.
Oui, alors moi j'ai repris avant l'émission, j'ai relu la fatwa en fait. Justement, je me suis dit que c'était important. La fatwa, elle est assez courte. Hein. Elle fait référence à l'islam, elle fait référence au prophète, au Coran, et puis elle parle surtout, c'est un élément important si on veut comprendre la question de la vengeance en réaction à quelque chose, elle parle d'insultes en fait contre contre ce qui aurait été donc trois offenses contre ce que je viens de citer, le Coran, le prophète et l'islam. Et ensuite, il y a un appel vengeur au meurtre qui est lancé à tous les musulmans. Et je voudrais juste finir sur un aspect qui me semble important. À l'époque, on n'est pas encore sur une fitna au sein de l'islam, cette guerre entre chiites et sunnites. Mmh. Donc la fatwa a eu une résonance parmi l'ensemble des musulmans, qu'ils soient sunnites ou chiites. Ça, c'est important de le dire.
La fitna, c'est la division
la division entre les musulmans qui est intervenue plus tard, bien sûr, avec la guerre d'Irak et d'autres conflits au Moyen-Orient. Mais à l'époque, l'Iran, la République islamique, a en fait un écho, une résonance dans l'ensemble du monde musulman. Et parmi notamment tous les islamistes, quelle que soit leur confession. Donc, aujourd'hui, on sait que l'assaillant est d'origine libanaise chiite, mais en réalité, Rushdie est évidemment aussi ciblé depuis des décennies par les islamistes sunnites.
David Benichou, vous êtes ancien juge antiterroriste, vous êtes expert international pour une mission de l'Union européenne sur le terrorisme au Moyen-Orient, au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Vous avez vous-même été mis sous protection plusieurs fois. Est-ce que vous comprenez justement cette longue durée dont nous parlons dans cette émission, c'est-à-dire comment une volonté de tuer peut durer aussi longtemps, y compris au-delà de la génération qui a connu pour la première fois cette fatwa?
Le fait de pouvoir accomplir, quel que soit le temps qui s'est écoulé, un ordre de mise à mort, et pour celui qui va mettre à exécution cet ordre, l'opportunité de jouir aussitôt d'un énorme prestige au sein de sa communauté, quel que soit son âge, c'est une porte d'entrée immédiate dans une reconnaissance absolue d'une certaine partie de sa communauté. Donc oui, c'est assez compréhensible. Après, Salman Rushdie, je pense qu'il n'y en a eu qu'un, et il n'y en aura qu'un, à avoir été autant médiatisé en 89 et au-delà. Donc il incarnait une forme de symbole absolu de la fatwa. Tout le monde en a entendu parler à l'époque.
Oui, et puis par exemple le quotidien ultra-conservateur Kayhan en Iran a dit que il fallait dire bravo à cet homme courageux et conscient de son devoir qui a attaqué l'apostat et le vicieux Salman Rushdie, ce qui veut dire qu'effectivement dans certains milieux aujourd'hui, il y a cette idée que c'était quelque chose à accomplir et qui n'était pas quelque chose qui remontait trop loin dans le temps, en l'occurrence David Benichou. Il y a donc cette actualisation, pourrait-on dire, dans certains milieux ultra-conservateurs et islamistes, de cette fatwa encore aujourd'hui.
Je dirais pas tant peut-être actualisation, ou en tout cas menace pérenne. Il y a des menaces qui sont pérennes, latentes, qu'on peut oublier au gré de l'actualité. Mais c'est un tort. Il y a certains courants idéologiques qui s'inscrivent dans un temps long. Et voilà, c'est simplement une adversité que l'actualité ne doit pas faire oublier, puisqu'elle s'inscrit vraiment dans un temps long.
Olivier Abel, vous êtes celui qui a écrit ce livre en tant que philosophe qui s'intitule « De l'humiliation ». Est-ce que vous pensez que cette humiliation sur laquelle vous avez travaillé pour cet ouvrage publié « Au lien qui libère » nous dit quelque chose, cette notion d'humiliation nous dit quelque chose de ce qui peut être un ressort, justement le sentiment d'humiliation plutôt que l'humiliation elle-même, le sentiment d'humiliation qui peut être un ressort justement pour quelqu'un qui va 30 ans ou 33 ans après une fatwa de ce type tenter d'assassiner un écrivain aux États-Unis.
Oui, ben, disons, évidemment, ça n'excuse rien, ça ne... mais ça peut permettre en effet de peut-être de comprendre ce qui se passe dans ce genre de processus terrible qu'est celui du ressentiment et de la vengeance qui sourd au sens qui est souterraine. Il y a un ressentiment souterrain qui va ressortir bien plus tard. Et parfois, en effet, avec des générations, c'est ça le tragique. Le tragique, c'est que ça va de génération en génération tant que le sortilège, on pourrait dire, n'est pas rompu. Mm-hmm. Je dirais peut-être que nous, on est des sociétés de rétribution, des sociétés marchandes, des sociétés rapides, des circuits rapides en quelque sorte d'échange. Et nous sommes relativement insensibles aux humiliations. Les humiliations touchent un circuit plus profond qui est le circuit de la reconnaissance. Le besoin de reconnaissance, en fait, le fait que les humains ont besoin de considération, de reconnaissance, de place, de respect, enfin, d'égard, des choses comme ça. Et je pense que l'humiliation, elle ridiculise, elle attaque le sujet parlant, le sujet qui parle. Et donc, elle lui fait honte de son expression, de ses goûts, de sa croyance, de sa confiance en soi, bon. Et donc, elle dévaste les circuits de la reconnaissance. Et du coup, elle laisse derrière elle une parole fanatique, une parole fanatisée, mais qui va ressortir sous d'autres formes, et parfois bien plus tard. Moi, c'est ça qui me frappe avec l'humiliation. Parmi les effets de l'humiliation, il y a ça. Il y a soit la parole qui devient complètement dérisoire, sarcastique, parce qu'on est, de toute façon, tout le monde est humilié, donc on est uniquement dans le sarcasme, dans l'esclavement mutuel, etc. Soit on est au contraire dans la fanatisation, et c'est ce processus-là qui me semble terrible.
Et vous pensez que c'est un processus qui peut être à l'œuvre justement dans une affaire comme celle qu'on appelle l'affaire Rushdie, parce que tout compte fait, cette humiliation, ça peut être une humiliation ressentie peut-être, effectivement. Je ne sais pas si ce jeune homme de 24 ans l'a ressentie de quelle manière, en l'occurrence, puisqu'il vivait aux États-Unis. Ça peut être une humiliation qu'on s'invente aussi d'une certaine manière. Ça n'est pas forcément une humiliation qui a été ressentie directement par le sujet qui se met à vouloir tuer quelqu'un d'autre.
Exactement. D'ailleurs, Nietzsche a très très bien analysé le processus du ressentiment dans lequel peu à peu le souvenir initial est complètement gommé par quelque chose qui est reconstitué en quelque sorte jour après jour, année après année, je dirais même génération après génération, et qui se réinvente une histoire. C'est pour ça que ça revient beaucoup plus tard, sans rapport apparent avec ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui est complètement, on pourrait dire presque hallucinatoire d'une certaine manière, mais qui est comme un... Si vous voulez, ce qui est en positif dans la reconnaissance dans laquelle il y a du don et du contre-don qui vient plus tard de manière différée avec autre chose, bon, ça c'est le circuit positif de la reconnaissance. Dans l'humiliation, ça ressort de manière négative, beaucoup plus tard et de manière disproportionnée là encore, avec une sorte de furie. On a du mal à comprendre.
Oui, c'est cela, les furies, les irinies, rancunières, furieuses, voilà. Et revanchardes, pourrait-on dire, comme dans la mythologie grecque, vous les évoquez. D'ailleurs, Myriam Bredrad, vous dites que dans votre livre qu'il y a derrière chaque acte de terreur un crime, un tort, une offense, une humiliation que le coupable désigné doit payer. Est-ce que vous pensez qu'il y a particulièrement dans ce cas cette humiliation, ou est-ce que c'est une humiliation qui s'invente et se réinvente au fur et à mesure des années?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire sur la question. Tout d'abord, on a différentes catégories d'humiliation primaire, pour les plus graves, secondaires. La fatwa, en l'occurrence, qui vise Salman Rushdie, donc depuis 1989, elle fait référence à une insulte qui pourrait être considérée, en regard de ce que je viens de dire, comme une humiliation ou un tort, une offense secondaire. Et pourtant, on voit à quel point il n'y a aucune proportionnalité, parce que on fait souvent référence à la loi du talion, mais en réalité la loi du talion c'est une loi de proportionnalité de la réaction. Là, on voit qu'il n'y a absolument pas de proportionnalité, qu'on a des assaillants ou des individus qui menacent Salman Rushdie sans aucune restreinte.
Ses éditeurs, ses traducteurs, etc. Puisqu'il y a déjà eu d'autres morts en particulier.
Tout à fait, tout son entourage. Et là, il y a cette, on a beaucoup parlé du ressentiment, On a cette mutualisation, en tout cas des intentions vengeresses. Alors maintenant, quand je parle de mutualisation, c'est aussi en rapport avec la résonance de la fatwa. C'est-à-dire que, on en saura plus sur l'assaillant, mais on a une forme de transposition d'une humiliation individuelle, dans certains cas, ou d'une envie de se venger individuelle, sur des causes qui sont plus grande, plus large. On l'a vu avec le djihadisme, mais on le voit évidemment dans le cas aussi, bien sûr, de l'attaque contre Salman Rushdie. Il est tout à fait possible que l'assaillant ait transposé un sentiment d'humiliation et un désir de vengeance sur l'affaire Rushdie, ce qui explique en fait le passage à l'acte, mais c'est très compliqué, bien sûr, à détecter, à anticiper. Autre chose, je voudrais quand même rajouter un élément par rapport à la fatwa, moi, qui m'a semblé intéressant. Dans la fatwa de 1989, il est dit que tout assaillant, quiconque s'en prendra à Rushdie en le tuant ou en mourant éventuellement à la suite de l'attaque, sera martyr. Et là, on touche à une question que j'aborde dans un des chapitres de mon ouvrage, à la question de la réplique punitive, donc sacrificielle. Il y a vraiment l'idée du sacrifice pour l'islam, pour les musulmans, pour la communauté. Et on touche là à l'identité sociale, en fait, qui, pour rejoindre ce qui a été dit, est un gage d'honneur, un gage de prestige social, communautaire, etc. Donc tout ça doit être pris en compte pour comprendre, en fait, pourquoi, encore une fois, eh bien, au moment où on s'y attendait peut-être le moins, Salman Rushdie a fait l'objet de cette attaque au nom de la vengeance.
D'une certaine manière, vous qui avez été, qui êtes encore ancien juge antiterrorisme et qui vous occupez encore de terrorisme, David Benichou, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des temporalités qui sont différentes? C'est-à-dire, comme le disait Olivier Abel, nous sommes dans une temporalité occidentale extrêmement rapide avec des événements qui se succèdent à très grande vitesse et qui s'effacent les uns les autres, pourrait-on dire, tandis qu'il y a, ce cas de la fatwa, il y a toujours une sorte de permanence et que d'une certaine manière, pour les personnes qui sont visées par ce type de menace, on ne sait pas très bien comment faire pour pouvoir continuer à être surveillé, à être protégé, tandis que ces menaces courent sur de très très longues durées. D'ailleurs, Salman Rushdie lui-même avait demandé une protection allégée, à un autre moment d'ailleurs, avait demandé à être carrément relevé de cette protection, tellement c'était difficile de vivre avec une protection permanente, David Benichou.
Oui, vous touchez là de près une difficulté, c'est la rencontre entre une menace dans un temps long et le principe de réalité, le quotidien, qui est tout simplement que vivre sous protection, c'est très rapidement invivable et que ça porte atteinte aux besoins de liberté.
C'est Roberto Saviano, qui est menacé, lui, par la mafia pour les livres et en particulier pour Gomorra, qui dit que c'est une vie de paria. Il dit, vous n'êtes pas mort, mais on ne vous laisse pas vivre non plus. Vous êtes au milieu.
Oui, absolument. Ouais. Pour être complètement protégé, il faut se couper de tout. Il faut se couper de la famille, se couper des endroits habituels, rester rarement au même endroit. Enfin, voilà, c'est rapidement invivable. Donc, il faut faire soit le choix de la vie sous cloche à long terme, soit le choix d'une prise de risque mesurée. C'est sans doute ce qu'avait fait Salman Rushdie.
Mais une prise de risque mesurée dont on n'est pas le seul maître d'une certaine manière, parce que ce sont, en l'occurrence, pour des menaces aussi graves que contre Salman Rushdie, ce sont les États qui protègent, ce sont les ministres de l'Intérieur, ce sont tout un tas d'institutions qui prennent le relais de sa protection propre d'une certaine manière.
Oui, et qui ont eux-mêmes des ressources limitées. Donc pour les, il y a des services décideurs qui doivent faire des arbitrages parce qu'on peut pas non plus protéger l'ensemble des personnes menacées. Donc ça oblige à faire des choix de priorité sur des affectations de ressources humaines tout simplement. Parce que protéger quelqu'un, ça veut dire mettre des humains autour de lui, faire l'environnement, faire du travail pour nettoyer les fichiers, de la surveillance statique. Enfin voilà, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Si on veut bien le faire, c'est extrêmement gourmand en ressources humaines.
Et d'autant, effectivement, que les personnes qui sont menacées à un moment ou à un autre, comme vous le disiez à l'instant, David Benichou, ont envie de vivre un peu plus largement leur vie que sous surveillance et que peut-être, effectivement, ce relâchement, ça n'était pas le cas, évidemment, pour Salman Rushdie, ce relâchement peut être saisi par quelqu'un qui va accomplir cette mission qu'il s'est donnée.
Oui, absolument. Ça crée ce qu'on appelle des trous dans la raquette. Après, il faut considérer que le risque de, pour une personne menacée de, d'être la victime de ceux qui la menacent fait partie voilà, d'un certain nombre de risques de la vie courante à évaluer et à assumer, quoi. Voilà, c'est difficile, surtout quand la menace se réalise, mais il y a mille autres façons également de mourir dans la vie, y compris les accidents qui ont une plus forte probabilité de réalisation que l'attentat terroriste.
Oui, mais à dire cela, effectivement, quand l'attentat arrive, effectivement, c'est extrêmement choquant, y compris pour les victimes eux-mêmes et les familles de tous ceux qui les entourent d'une certaine manière.
C'est bien sûr, mais c'est aussi on peut vivre aussi obsédé par la menace et ne plus vivre du tout. Donc ça, c'est après, c'est des choix individuels qui sont toujours difficiles à faire parce que une personne qui décide d'abandonner sa protection, elle sait qu'elle se rend plus vulnérable.
Sur ce point, Olivier Abel.
Oui, non, je voulais. Je me rappelle de la masterclass de Salman Rushdie avec Arnaud Laporte, là.
Qui a été rediffusée récemment sur France Culture, effectivement.
Voilà, dans lequel il disait que si, quand on est très très proche au point de capter le moment, c'est dangereux justement parce qu'on recommande la distance, un peu de distance, d'objectivité, ne pas trop s'attaquer aux choses trop contemporaines. Il dit, mais à ce moment-là, qu'on est près du taureau. Il prend l'image de la tauromachie à le toucher. Il dit, le risque, c'est d'avoir la corne du taureau dans votre haine. C'est incroyable, dans votre haine, dans votre esne, hein, dans votre. Et c'est étonnant parce que c'est pratiquement ce qui lui est arrivé. Donc, dans cette masterclass, là, il disait quelque chose, il sentait bien quelque chose. Il se figurait avec une précision étonnante, le risque qu'il prenait dans cette proximité. Oui, et ce qui me semble le propre de ce temps-là, c'est que c'est le temps de l'imprescriptible. Il me semble que le temps de la justice, et je dirais d'une certaine manière le temps des États, le temps des sociétés humaines, on va dire normal, c'est un temps dans lequel il y a des prescriptions, il y a des amnisties, on arrête.
Il y a certains crimes qui ne sont plus prescrits, on le sait, par exemple après le 13 novembre, le procès du 13 novembre.
Voilà, oui, c'est ça, bien sûr. Mais en fait, en gros, quand même, on cherche à arrêter le mal, si je puis dire, à ne pas le laisser tout le temps courir dans tous les sens, etc. Donc, et là, voilà, là, on est sur une scène, qui est la scène de la vengeance, qui est d'ailleurs aussi la scène du pardon, qui est la scène, enfin, une scène qui n'est pas la scène de la, on peut dire, de la justice normale. Et donc, je pense que c'est vraiment deux temporalités différentes. Il y a un temps pour, justement, pour arrêter le mal, pour arrêter dans un temps court, voilà. Et puis, il y a la réhabilitation d'un lien social du temps long. Mais par quel chemin est-ce qu'on peut arriver à réhabiliter un lien social apaisé? Ça, c'est vraiment une des plus grandes difficultés qu'ont toujours eues les sociétés humaines. Toujours. Et ça, c'est l'intérêt, justement, des tragédies grecques dont on parlait tout à l'heure. C'est que justement, ce que fait Athéna à la fin de l'Orestie d'Eschyle, elle n'humilie pas les Erinnies, les divinités de la vengeance, les furies de la vengeance. Elle dit, mais vous n'êtes pas vaincus, on a besoin de vous,
Elle les réintègre dans.
Elle les réintègre, voilà. Elle leur fait place. Et ça, je trouve que ce geste-là est un geste très important parce que ça veut dire, quelque part, on se remet sous la dépendance. Ça dépend, au fond, ça dépend de vous. Il n'y a de politique, il n'y a de société proprement politique, c'est-à-dire qui pense les conflits d'une manière négociable, négociée, politique, qu'à partir du moment où tout le monde rentre dans ce jeu-là.
Vous écoutez donc, France Culture, il est 18h43, nous débattons dans ce temps du débat de savoir comment, après la tentative d'assassinat de Salman Rushdie, comment s'entretient le feu de la haine, et nous sommes en compagnie de trois invités, vous venez d'entendre Olivier Abel, philosophe, de David Benichou, ancien juge antiterroriste et spécialiste de cette question du terrorisme en tant qu'expert international, et de Myriam Benrad, politologue et docteur de l'Institut d'études politiques de Paris, spécialiste du Moyen-Orient, qui enseigne les relations internationales à l'Université internationale Schiller à Paris.
Alors avec cet essai, René Girard, c'est la première fois, je crois, je l'ai dit, que vous vous intéressez à ce qu'on appelle la mondialisation, les cycles mimétiques, ces grands cycles rivalité, violence, vengeance, rivalité, violence, vengeance, qui minent toute l'histoire humaine, si bien que désormais, avec la globalisation, je vous cite, « la vengeance réussit à enjamber les générations et à faire le tour du monde ».
On pourrait dire Ben Laden est le premier héros, si j'ose dire, de cette vengeance absolue. Alors pour moi, le mimétisme est beaucoup plus important que les différences entre l'islam et telle autre idéologie. Il est bien évident qu'aujourd'hui, il y a dans les pays musulmans toute une jeunesse qui est plus ou moins désespérée, et alors qui a remplacé le marxisme, d'une certaine façon, par l'islam. C'est une chose assez extraordinaire et à laquelle on ne pouvait guère s'attendre, et qui est très mobilisatrice aujourd'hui pour toute une jeunesse, n'est-ce pas ? Et c'est 1 milliard d'individus.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
C'était le penseur René Girard, le 7 novembre 2001, dans l'émission Les Chemins de la Connaissance de France Culture, interrogé par Jean Birbaum. Avec la globalisation, la vengeance enjambe les générations. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase de René Girard, Myriam Benradou, qui avait écrit sur cette vengeance dans le cadre du terrorisme?
C'est René Girard, c'est une référence sur la question. Et l'idée de mimétisme, elle est très intéressante, même si j'ai tout de même dit que la vengeance, elle a sa part d'aveuglement et de destruction. Donc on n'est pas du tout... il faut quand même se prendre quelques précautions, je dirais, par rapport à ce qui relève du traditionnel. Si on parle de loi du talion, de cycle de vengeance mimétique, dans la tradition, on est plutôt en fait sur des logiques de résolution des conflits et de proportionnalité, comme j'ai déjà mentionné. Oui, oui. Quand on est dans le champ de l'idéologie, on est plutôt sur la démesure. Et on le voit avec le terrorisme contemporain, qui est une forme de violence politique, démesurée par ses moyens, par... ces instruments. Donc c'est évidemment très important. On touche aussi aux questions de reconnaissance dont Olivier Abel parlait, puisqu'on est sur un rapport réciproque. La vengeance, elle intervient entre un agresseur, une victime et vice-versa. Donc on touche là à des problématiques, et René Girard le dit très bien, à des problématiques qui sont en fait très anciennes, qui n'apparaissent pas avec la violence politique contemporaine, avec le terrorisme djihadisme ou autre. Et je trouve que c'est un peu en tout cas l'angle que j'ai voulu prendre moi-même contre des approches qui par ailleurs me semblent, 20 ans après le 11 septembre, avoir fait leur temps. On est sur des paradigmes très médiatisés en parlant de terrorisme, et moi j'ai personnellement dressé le constat qu'on ne touchait pas finalement à l'essentiel, et la vengeance est un des moteurs essentiels de ces attaques à répétition auxquelles on assiste. Et peut-être une dernière chose, on parle de haine, c'est l'un des mots clés de l'émission ce soir. La haine n'est pas tournée vers la réparation, vers la justice restauratrice, réparatrice. Mmh. Elle est tournée vers l'annihilation. Et c'est vraiment ce qu'on a dans la fatwa qui vise Salman Rushdie. Il n'est pas question de dialoguer ou de trouver un compromis avec Salman Rushdie. Il est condamné à mort. On appelle à son annihilation. Et
c'est ce que vous appelez la vengeance de sang.
La vengeance de sang, oui, qui d'ailleurs fait partie de la tradition musulmane et pré-islamique. Aussi, et qui est donc, comme vous le disiez, réactualisé finalement dans le présent, et qui ne laisse en fait aucune perspective de survie à sa cible. Il faut être bien clair si on veut comprendre quelle est la détermination des assaillants, et puis plus largement, quelle était à l'époque la détermination de l'Ayatollah Khomeini, qui a d'ailleurs été visé personnellement dans les versets sataniques, d'où le caractère intransigeant et fatidique de la fatwa.
David Benichou, quand on brasse des questions aussi graves, effectivement, anthropologiquement, pourrait-on dire que cette histoire de la vengeance, que cette histoire des haines qui sont cuites et recuites et qui reviennent sur le devant de la scène. Je conseillerais d'ailleurs à nos auditeurs de s'intéresser cette semaine à l'excellente série, la série documentaire consacrée à la Saint-Barthélemy. Est-ce qu'on a les moyens, justement, avec l'état de droit dont parlait Olivier Abel, dont vous parliez également, d'être à la hauteur de ce genre de menaces qui peuvent durer si longtemps, qui peuvent se transmettre et qui, comme le disait René Girard, la vengeance enjambe les générations?
Clairement, on n'a pas les moyens. il faudrait mettre une quantité de moyens disproportionnée pour protéger tout à fait une seule personne en surveillant absolument tout son environnement.
Les mais moi, les moyens, quand je parle de moyens, je parle moins de moyens matériels que des moyens même intellectuels, pourrait-on dire, c'est-à-dire de se plonger, comme le fait Myriam Benjara dans son livre, sur cette question avec les outils que nous avons, outils démocratiques, outils de justice que vous avez pratiqués vous-même en tant qu'ancien juge.
La justice antiterroriste, elle peut agir de deux manières. D'une part, après l'attentat, c'est-à-dire que le mal est fait en poursuivant les auteurs, en tout cas ceux qui restent encore en vie, et d'autre part, en évitant que des attentats soient commis. Donc là, c'est toute une activité en liaison avec les services de renseignement, les forces de sécurité, pour éviter le passage à l'acte. Maintenant, si on veut éviter que des mécanismes de vengeance à long terme ou d'attentat et courent en agissant autrement en société, il faut aussi se poser la question de politique de prévention et notamment au sein des communautés, faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de promotion de tels agissements dans une communauté, qu'aucune communauté ne puisse promouvoir la mise à mort de quelqu'un pour une expression. Mais là, on est dans des défis sociétaux et culturels. Et voilà, c'est une autre dimension. Mmh.
Avant de vous donner la parole à Olivier Abel, Myriam Benrad, vous évoquez aussi cette loi du talion. Je ne sais pas si c'est véritablement une loi du talion quand vous parlez de la manière dont les États aussi peuvent pratiquer. Et on a eu un ancien président de la République qui l'a dit, des opérations dites homo, c'est-à-dire des opérations qui sont homicides contre des personnes qui représentent une menace pour les États. Et vous les comparer d'une certaine manière, et c'est d'ailleurs assez surprenant dans votre livre sur les affres de la vengeance, vous dites l'État aussi peut lui-même pratiquer cette vengeance mortelle qu'il reproche à d'autres de mettre en œuvre.
Dans l'histoire du terrorisme, on a un terrorisme d'État. L'histoire du terrorisme, elle a commencé par un terrorisme d'État. Donc, on a bien entendu des opérations extrajudiciaires d'élimination des terroristes, qui d'ailleurs font la une de l'actualité très régulièrement. Et à côté de ça, on a une justice antiterroriste qui, je pense, a du mal à appréhender cette question de la vengeance. En tout cas, essayer évidemment de la refouler. On l'a vu avec le procès du 13 novembre. D'ailleurs, symptomatiquement, ce procès s'est ouvert avec une référence à la loi du talion et se referme avec des références à la loi du talion, à la fois du côté des avocats de la défense, à la fois du côté des magistrats et à la fois aussi du côté des victimes. J'ai trouvé ça pour ma part intéressant parce que donc le système pénal plus largement refoule la vengeance dans sa construction contemporaine, mais a du mal à s'en défaire totalement, surtout lorsqu'on est face à un crime suprême, et puis du fait que la vengeance a rythmé nos sociétés pendant des siècles. Et puis ces fameuses, j'y reviens, on est sur la guerre contre le terrorisme, est une guerre au sens militaire. Donc on a ces opérations extrajudiciaires dont on nous parle pas au niveau des modalités, etc., mais régulièrement on apprend qu'un des leaders de l'État islamique ou d'un autre groupe, on l'a vu avec Zawahiri comme Al-Qaïda, a été éliminé. On n'en saura pas plus, mais bien entendu que les États, dans ce cas, sont dans une logique vengeresse qui est d'ailleurs assumée. Je vous renvoie, j'y fais référence dans mon ouvrage, au discours d'Obama en 2011, au moment de la mort de Ben Laden, qui a été un discours très solennel, très court, très solennel, et qui ne faisait pas mystère sur le fait que Obama considérait que l'Amérique s'était vengée de son ennemi numéro un.
Olivier Abel, dans votre livre sur l'humiliation, de l'humiliation, vous évoquez cette humiliation comme dévastatrice. On a dit qu'elle pouvait être, en tout cas le sentiment d'humiliation pouvait être à l'origine justement de ces envies de vengeance. Et vous dites qu'elle affecte le temps humain dans la durée, que c'est un lent empoisonnement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette question de cette lenteur, d'une certaine manière, et de cette durée qui est au cœur de notre discussion depuis tout à l'heure autour de cette tentative d'attentat contre Salman Rushdie en plein milieu de l'été?
Oui, alors ma première hypothèse c'était justement de dire que c'est la même chose que la reconnaissance en négatif, et donc en effet c'est des circuits très lents, très longs, qui prennent du temps. Mais je pense aussi qu'il y a une dimension collective, je dirais, enfin, qui est une dimension, je dirais, énorme en quelque sorte aussi dans certaines humiliations, qui montre l'importance de l'humiliation dans l'histoire et dans l'histoire, par exemple, des guerres, les motifs des guerres et aussi les conséquences des guerres qui préparent, qui jettent les graines pour des guerres futures.
Parce que c'est ce que vous appelez l'humiliation collective, c'est ce que, par exemple, un historien comme Marc Ferraud avait appelé dans un de ses livres le ressentiment comme moteur de l'histoire.
Ah ben oui, je pense que par exemple la défaite de Sedan, ben voilà, on a c'est plus d'une génération après, ben ceux qui partent à la bataille en 1914, fleurs au fusil parce que on va venger Sedan et donc c'est Verdun, etc. Et donc il y a après Verdun et Versailles, ça va être le Troisième Reich, ça va y avoir, c'est des longues histoires énormes, je dirais, d'effets collectif gigantesque d'humiliation. Donc, il n'y a pas d'un côté des sociétés, on peut dire, archaïques avec qui, la vengeance, et puis de l'autre côté des États modernes, ultra. Et c'est ce qu'on vient de dire, hein, tous les trois, d'une certaine manière. Hein, bon. Mais je pense qu'il faut qu'on mesure cette dimension très, très collective. Il y a toujours cette. Alors d'abord, il y a le ressentiment, le fait que aujourd'hui, il y a quand même une facilité au discours du grand ressentiment, ou plutôt au grand discours du ressentiment.
Oui. Au recours à ce discours, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà, c'est le grand récit qui nous reste. Les autres grands récits sont en train de se casser la figure, mais le grand récit du ressentiment, hein, lui, il reste, et il est très très puissant. Il est très puissant contre, entre guillemets, l'Occident, contre la modernité en général, peut-être bientôt contre la science, j'en sais rien. Moi. Et donc, ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement dangereux. Et alors, face à ça, moi, j'ai envie de revenir à la racine, qui est l'idée que l'humiliation fait taire, qu'elle s'attaque au sujet parlant, qu'elle empêche de parler, qu'elle empêche pour longtemps, et que les gens s'étranglent avec leurs paroles et qu'ils peuvent rien dire, et que ça va ressortir avec des symptômes beaucoup plus tardivement. Mmh. Et j'ai envie de dire, il faut refaire place, et là, c'est là que Salman Rushdie met aussi le doigt sur quelque chose d'essentiel, il fait un roman. C'est Kundera qui disait, oui, mais c'était un roman, ils n'ont pas compris que c'était un roman. Et c'est pas uniquement la question de liberté d'expression, c'est repluraliser les genres de langage. Il n'y a pas que la satire, il y a aussi la tragédie, mais il y a aussi le roman, il y a aussi la poésie, etc. Et refaire une société dans laquelle il y a une pluralité. Et bien sûr, il y a le rôle de l'État, il y a le rôle de la justice, il y a le rôle, il faut arrêter le mal, mais il faut aussi un rapport au langage dans lequel il n'y ait pas un seul genre de langage qui écrase les autres, d'une certaine manière. Ouais, c'est ça qui me semble. Oui.
David Benichou, sur ce point.
Que dire, si ce n'est que effectivement, il ne faut pas prendre un roman pour une réalité. Enfin, tout cela, ça me paraît un peu abstrait, très honnêtement. On peut parler.
Vous qui avez été confronté à la réalité de cette question de la menace terroriste.
Voilà, la réalité, c'est que il y a des gens qui sont menacés très concrètement. Il faut qu'ils assurent leur sécurité et soit ils comptent sur eux-mêmes, soit ils comptent sur l'État pour garantir leur sécurité. Après, tout ce qui est discours sur les raisons pour lesquelles on est menacé à un niveau, je dirais macroscopique et psychologique, qui relève quasiment de la psychologie des foules ou des communautés. La portée de ce discours sur le réel m'apparaît assez faible, sauf ensuite à réussir à l'incarner dans des politiques publiques qui se traduisent dans le monde réel.
Un dernier mot, Myriam Menrad, vous qui avez travaillé sur ces affres de la vengeance pour le livre que vous avez publié au Cavalier Bleu l'année dernière.
Je pense que les mots, pour ma part, comptent parce que j'ai mentionné un certain nombre de paradigmes, hein, qui sont à la mode et qui aujourd'hui sont même institutionnalisés pour combattre le terrorisme et ces phénomènes de violence. Je pense que la terminologie est très importante. Donc j'invite à un renouvellement des grilles d'analyse pour ma part, surtout quand on voit que tout cela continue et qu'on n'a pas du tout touché sans doute aux racines profondes des problèmes que l'on prétend combattre.
Merci à vous, donc Myriam Menrad, autrice de Terrorisme, les affres de la vengeance aux sources liminaires de la violence, c'est au Cavalier Bleu. Merci à vous, Olivier Abel, de l'humiliation, c'est au lien qui libère. Quant à vous, David Benichou, vous continuez votre travail en tant qu'expert international au Maroc pour une mission de l'Union Européenne sur le terrorisme au Moyen-Orient, le Sahel et la Corne de l'Afrique. C'était le temps du débat préparé ce soir par Mathias Mégy, Stéphanie Villeneuve, Fanny Richer, Balthazar Sibieud, Cécile Bidot et réalisé par Daphné Leblond à la technique d'Aliya dans le temps du débat. De
Demain, nous évoquerons la rentrée des professeurs à travers cette question: concours d'enseignement, est-ce la fin d'un système ?